Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle édition de Libre Propos, émission hebdomadaire de Radio Rancière qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori, sur des sujets divers et variés. Aujourd'hui, quatre sujets religieux et on va commencer en prenant des nouvelles de la santé du pape François.
Oui, bonjour Christophe. Depuis quelques semaines, effectivement, on s'inquiète particulièrement pour notre Saint-Père François. Sa santé est mauvaise, il a été hospitalisé, on le sait fragile de ses poumons. Maintenant, je ne suis pas capable d'en dire plus aujourd'hui, quand on enregistre. Il est vrai que cet homme a été un homme courageux, même devant la maladie parfois. Il continue à travailler et à mener cette mission qu'il a reçue, à la fois de diriger l'Église et de transmettre un message de paix au monde. Donc on le soutient bien par la prière.
Ouais. Un grand voyageur, un peu comme Jean-Paul II en son temps. Un athlète de Dieu, comme on disait Jean-Paul II.
C'est vrai que nos papes ont montré un zèle à se déplacer. Paul VI avait commencé déjà beaucoup, et ensuite il y a eu Jean-Paul II, Benoît XVI, et maintenant François. Ils ont montré ce visage du Christ qui va rejoindre des hommes et des femmes dans des lieux retirés, parfois d'ailleurs où l'Église n'est pas présente ou si peu, comme par exemple en Mongolie. François était allé rencontrer les 1500 catholiques de ce grand pays, bien plus grand que la France, et écouter aussi ce que ces gens disent, chrétiens et non-chrétiens, pour faire des ponts. Hein. Vous savez que le mot pontife veut dire faire des ponts. Donc leur vocation est de faire des ponts entre les peuples, apporter une parole de paix dans un monde quand même un peu charivari où la guerre est un peu menaçante. Donc voilà, on prie bien pour le pape.
Oui. Si jamais il devait démissionner, qu'est-ce qui se passe immédiatement après en fait? C'est un conclave
Alors Benoît XVI a remis sa charge, hein. Il est resté à l'écart ensuite, donc effectivement c'est décidé un conclave, donc... Ouais. C'est vrai que le mot conclave vient de clavus, les clés. Ça veut dire qu'on s'enferme à clé, avec les clés, notamment dans la chapelle Sixtine, le temps des votes qui vont conduire à l'élection d'un nouveau évêque de Rome. C'est l'évêque de Rome qui devient pape, c'est ça l'idée. L'évêque de Rome étant le successeur de Pierre, l'apôtre Pierre, choisi par le Christ pour conduire l'Église. Donc peut-être qu'on aura un conclave, mais le pape n'est pas encore mort.
Non, bien sûr, heureusement. Le dimanche 9 mars prochain, vous procéderez, Monseigneur, à l'appel décisif de 106 catéchumènes. Ce sera donc le premier dimanche du carême. Qu'est-ce que l'appel décisif ?
Alors d'abord, c'est une grande joie. C'est une grande joie pour le pasteur que je suis. Vous savez qu'on avait une quarantaine de catéchumènes adultes, bon an, mal an, les années précédentes, et puis en 2024, 72 se sont présentés, du moins 72 ont achevé, on peut dire, un certain parcours de préparation, et cette année 106.
Donc c'est exponentiel.
Oui, alors on constate qu'ils sont plus jeunes qu'avant, on a beaucoup de jeunes adultes, 20-30 ans, des grands jeunes aussi, on a des grands adolescents, 5, 15, 17 ans, 18 ans, qui viennent nous revoir, puis bon, aussi des gens relativement âgés, je crois que j'ai vu un monsieur de 73 ans, enfin, ça arrive aussi, hein. Mais il y a un rajeunissement du groupe des catéchumènes. Alors, l'appel décisif, c'est une célébration qui va ouvrir le temps du carême pour eux. Donc, on les reçoit, on les bénit. Je leur donne une écharpe violette, un peu comme symbole de ce parcours qu'ils vont faire en carême pour se préparer à leur baptême qui aura lieu à la vigile de Pâques, donc le samedi 4 mars, samedi, pardonnez-moi, 19 avril. Dans les paroisses et aussi à la cathédrale de Chartres. Voilà, et c'est une joie pour eux aussi d'être reconnus comme membres de l'Église en demande de baptême.
Alors là, ça va de 15 à 75 ans, je crois. Il y a une personne de 75 ans qui...
Absolument, mais il n'y a pas d'âge quand on n'a pas été
baptisé.
Oui, bien sûr, les gens parfois nous disent « j'ai pas connu du tout l'Église ou la foi ». Parfois, mes parents étaient chrétiens, mais n'ont pas souhaité me baptiser. Et maintenant, je reviens, oui.
Oui. Et il y a de très très beaux témoignages à découvrir sur le site du diocèse, notamment une personne qui était athée autrefois. Et ça, c'est aussi quelque chose quand même, passer de l'athéisme absolu, la négation totale, à la découverte de Dieu.
Ça arrive. Moi, j'ai une lettre. Enfin, chacun m'écrit une lettre. Alors, une lettre, ça peut être une page. Parfois, c'est 6 pages de leur itinéraire. Ce que je note, c'est que ça bouleverse leur vie, de découvrir le Christ vivant. Ça les rend heureux. Parfois, on voit des gens qui avaient une intuition que Dieu était là, notamment des épreuves. Parfois, les épreuves comme la mort d'un très proche, le deuil, donc, s'il peut aussi donner une réaction un peu de... contre Dieu, pourquoi est-il mort si Dieu m'aime? Parfois c'est l'inverse, parfois c'est d'un seul coup s'ouvre une perspective du ciel dans la tête de la personne qui constate la perte d'un proche et qui va chercher, et qui vient à l'église, qui vient prier seul, et puis qui un jour ose, après parfois quelques années, frapper à la porte de l'église en disant j'aimerais bien mieux comprendre, mieux connaître, avoir le baptême. Et chaque chemin est particulier. Quelques personnes viennent d'autres religions aussi, découvrant combien le Christ accomplit au fond toute l'attente spirituelle des hommes et donne un tel message de paix et de miséricorde qu'ils veulent devenir chrétiens. Voilà, c'est très beau pour moi de lire ces lettres.
Et tout le monde évidemment est invité à participer à cette célébration.
Alors, tout le monde, en plus, moi j'invite vraiment les catholiques à venir parce que si on n'est pas là pour dire à ces 106 frères et sœurs qu'ils sont importants à nos yeux, qu'ils comptent en notre cœur, qu'ils sont membres de la famille, on ne comprend pas.
Ce serait dommage.
Non, c'est tellement important d'accueillir, dans les paroisses aussi, bien sûr, ces hommes et ces femmes qui, parfois, d'ailleurs, ont accepté une forme de risque. Leur vie peut être chamboulée au point que des relations familiales, amicales, sont mises en cause. Et si l'Église ne prend pas le relais d'une vie familiale, on peut dire d'Église, elle manque à son devoir, il faut être là.
Ouais. Samedi, 1er mars, à 18h30, à l'église Saint-Jean-Baptiste de Rochèvre, sera célébrée la traditionnelle à Chartres messe de mémoire de l'abbé Franz Stock. Je trouve que c'est une figure dont il faut se rappeler peut-être aujourd'hui, où l'Europe est sous la menace d'une guerre.
Absolument. Franz Stock était un Allemand très francophile, qui parlait couramment français et qui a vécu principalement entre les deux guerres, avec des groupes justement de jeunesse internationaux, franco-allemands. Alors c'était après la Grande Guerre, comme on dit, et les Allemands étaient quand même très très déconsidérés, on les appelait les Boches. il a accepté de venir lui-même étudier à Paris. Quand la guerre 40 éclate, on le renvoie, il repart en Allemagne. Et il est déjà prêtre alors, et les Allemands vont occupant Paris, vont demander un prêtre pour les Allemands en garnison, en séjour à Paris durant la guerre. Et c'est Franz Stock qui va revenir à Paris pour être au service de ses citoyens allemands. Mais en même temps, il va être nommé aumônier de plusieurs prisons, dont la Santé, dont la prison du Cherche-Midi aussi. Et là, il va accompagner... On ne sait pas très bien si c'est 1500 ou 2000, notamment des résistants arrêtés par la Gestapo, souvent torturés, et condamnés à mort à être fusillés au Mont Valérien. Et il va prendre soin de ces personnes en les accompagnant physiquement jusqu'au Mont Valérien, en transmettant clandestinement des messages aux familles et des nouvelles aux familles, au risque d'être mis en cause par la Gestapo lui-même. Et il va... être un peu un héros de ces gens-là. Et puis, à la fin de la guerre, quand les Alliés arrivent, il va être fait prisonnier lui-même, ayant souhaité rester près des Allemands, trop blessés pour être emmené avec les troupes qui partaient vers l'Allemagne, les troupes allemandes vers l'Allemagne. Et là, un peu plus tard, c'est Mgr Roncalli, qui sera le futur Jean-Paul II, le futur pape Jean XXIII, il va être choisi pour être le supérieur d'un séminaire qu'on appelle des Barbelés, parce qu'effectivement, c'était un camp de prisonniers allemands, de soldats prisonniers, après la guerre, par les Alliés. Mais on va y mettre des séminaristes. Et plusieurs centaines de jeunes séminaristes avaient été enrôlés comme soldats dans la Wehrmacht. ont été faits prisonniers et du coup, les Alliés pensent qu'il faut leur proposer de continuer leurs études de théologie biblique en vue d'être prêtres pour être au fond ceux qui vont œuvrer après comme prêtres pour la réconciliation. Et Franz Stock, pendant 2 ans, va être leur supérieur. Malheureusement, il mourra ensuite, très vite après la guerre, d'épuisement d'avoir accompagné ces gens au Mont Valérien, d'avoir vu ces nombreux morts et d'avoir tout donné pour cette jeunesse et cet avenir. Aujourd'hui, on le vénère vraiment comme un homme très vertueux. On espère un jour qu'il soit béatifié parce que sa cause est quand même celle d'un saint. Et ça, c'est entre les mains de Paderborn, en Allemagne, son diocèse d'origine.
C'est vraiment celui qui sait percevoir, au-delà des nationalités, l'humanité, finalement, de l'homme, quoi, hein, c'est ça.
Il a œuvré pour cette communion entre les peuples, sachant que, voyant même, bien sûr, très bien le crime que les nazis avaient perpétré, il savait que l'avenir était dans la réconciliation et la communion.
Pourquoi éduquer la conscience des enfants? C'est la question que vous posez dans votre avant-dernier message fraternel qui me semble important. Je voudrais revenir sur ce message fraternel. C'est une question que vous vous posez à vous-même après l'assassinat de la petite Louise âgée de 11 ans, donc assassinée par un homme sans véritablement de motif, d'ailleurs, une sorte de violence gratuite, de bouffée de violence. Il faut éduquer. Non seulement l'enfant au savoir, mais à la conscience, finalement.
C'est ça, parce que la conscience, c'est un peu cette instance intérieure où, pour nous chrétiens, Dieu nous parle, mais aussi qui comprend le sens du bien et le sens du mal. Et cette conscience doit être éduquée pour que l'enfant perçoive, justement, à la fois tout le bien qu'il peut faire avec des actes bons, et le mal qui peut le menacer, le mal que lui peut faire. Et l'enfant n'est pas un ange, hein. Un enfant en cours de récréation, même très petit, peut faire du mal. Et le mal aussi qu'on peut lui faire. Alors, ou directement, comme malheureusement Louise assassinée, un drame absolu pour sa famille, ses proches et pour elle-même. Mais voilà, le mal qu'on peut nous faire aussi en société. C'est-à-dire, quand on promeut le mensonge, quand on promeut des idéologies fausses sur l'être humain, sur l'étranger, sur celui qui a une couleur de peau différente de la mienne ou une autre religion, cette conscience qui est capable de discerner le bien, la vérité, et de mettre en œuvre la volonté pour la défendre. Parce que la volonté doit s'emparer de ce jugement de la conscience sur le bien et le mal, et poser les bons actes consécutivement en vue du bien, en vue de l'amour, en vue du respect de chacun. Mais si la conscience n'est pas éduquée, si par exemple un enfant a été éduqué dans l'idée que pour survivre il faut voler, dans sa conscience il y aura une sorte de perversion, c'est-à-dire que le mal qu'est le vol devient une forme de bien parce que ça sert à vivre, alors que ça demeure un mal. Donc c'est tellement important. Et l'Écriture sainte, la sagesse que Dieu donne, l'enseignement de Jésus et que l'Église redonne, accompagne cette éducation de la conscience, que bien sûr qui appartient d'abord aux parents. C'est aux parents d'éduquer par leur témoignage, leur exemple et leur parole, et de dire que ça c'est bien, ça ne l'est pas, que ça c'est un mensonge et que ça n'en est pas un. Et les parents ont un devoir premier de très tôt de montrer à l'enfant le bien et ce qui est beau.
Merci beaucoup, Monseigneur. Cette émission est terminée, chers auditeurs et auditrices. Vous pourrez bien sûr la réécouter en podcast sur notre site www.radiograndciel.fr. Je rappelle aussi que on peut relire ou réécouter vos messages fraternels sur le site du diocèse. Ne pas l'oublier. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.